France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 30 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les lycéens qui passent le bac cette année révisent-ils pour du beurre? Les épreuves de philo et de français du lundi 17 juin sont menacées. Les enseignants sont appelés à faire la grève de la surveillance contre la loi Blanquer et la réforme du lycée. On voit ça en détail après les autres titres, Hélène.
Naufrage collectif, mais défaite personnelle. Pour Benjamin Netanyahou, crise politique en Israël. Deux mois après les élections, les députés ont choisi la dissolution hier soir. L'homme soupçonné d'avoir déposé le colis piégé à Lyon passe aux aveux et dit avoir trouvé le matériel en ligne sur Internet. Et puis aussi mort sur le Danube, un bateau de touristes chavire, 7 morts à Budapest. Que faire des Français djihadistes? Doit-on laisser l'Irak les juger? Le débat est ouvert. Et puis dans ce journal encore, Benoît Paire, 5-7 plus que Corias hier pour se qualifier à Roland-Garros.
Les invités de France Inter ce matin, bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
9 journalistes d'investigation convoqués par la DGSI. Ils ont révélé l'affaire Benalla ou les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. On leur reproche d'avoir violé le secret défense. Alors on pose cette question ce matin. Est-ce plus difficile d'enquêter sous Emmanuel Macron? Les relations entre le pouvoir et la presse se sont-elles tendues ces deux dernières années? Réponse d'Ariane Chemin, journaliste au Monde, et de Benoît Colomba, journaliste à la cellule Investigation de Radio France. Ils seront avec nous tous les deux.
À tout à l'heure. 8h20, réflexion sur les effets à moyen ou long terme des élections européennes. Le paysage politique en sort-il profondément modifié? On posera la question tout à l'heure aux politologues Dominique Régnier et Rémi Lefebvre. Ce sont les invités du grand entretien de la matinale. Intervenez dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter.
Week-end de l'Ascension, ça rime avec révision. Mais les milliers de lycéens qui planchent sur la philo ou le français en ce moment à 2 semaines et demie du bac pourraient bien se retrouver le bec dans l'eau au premier jour des épreuves. Hier soir, plusieurs syndicats de professeurs ont appelé à une grève de la surveillance des examens pour le lundi 17 juin. Opposés à la réforme du lycée, opposés à la loi Blanquer et pour une revalorisation salariale, le SNES, le SNALC et la CGT ont pris cette décision rare, mais Alexis Morel à la hauteur des enjeux, disent-ils.
Après des mois de mobilisation en vain contre les réformes Blanquer, ces syndicats l'affirment, ils n'ont pas d'autre choix. En appelant les enseignants à la grève le premier jour du bac, ils menacent clairement la surveillance des épreuves de philo et de français. Ce genre de préavis pendant les examens est rarissime, symboliquement très fort. Le dernier sérieux remonte à 2003. Mais il n'est pas certain que la base le suive. Le SNES a lancé une consultation il y a plusieurs semaines. Plus de 3/4 des répondants se disaient certes favorables à ce type de grève, mais seuls 12% des adhérents du syndicat ont répondu. Quant aux premiers concernés, les élèves de terminale, ils sont très partagés, comme ces lycéens parisiens.
Je vois pas pourquoi ils devraient faire ça pour se faire entendre. Ça va juste nous gêner et gêner tout le monde en gros. Moi je travaille, je vois pas pourquoi je devrais payer les conséquences, c'est pas vraiment de ma faute.
C'est peut-être le seul moment où ils peuvent faire entendre leur voix. Ouais. Parce que s'ils font ça pendant les vacances ou un truc comme ça, ça sert à rien. Alors que si c'est pendant le bac, nous on va gueuler.
Côté syndical aussi, cette forme de mobilisation ne fait pas l'unanimité. D'autres organisations comme le SEUNSA et le SGEN-CFDT la rejette catégoriquement.
Alexis Morel, c'est sans doute le deuxième effet des européennes. Emmanuel Macron est en baisse de 2 points à 30% de popularité. Baromètre mensuel au Doxa pour France Inter. On retiendra surtout l'envolée spectaculaire de Yannick Jadot. L'écologiste prend 20 points du jamais vu et passe de la 15e à la première place. Personnalité politique qui suscite le plus d'adhésion. Celui qui en suscite le moins, sans surprise, le flop est à l'image des élections. C'est Laurent Wauquiez, 19e sur 22 au classement. Il y a comme un goût de fronde chez les Républicains. Des membres de la jeune garde du parti réclament la création d'un comité du renouvellement. Pas question donc de reconstruire la droite sans eux. Ils sont une dizaine, trentenaires, quadras et signent une tribune ce matin sur les réseaux. Les jeunes loups du parti donnent une semaine au patron Laurent Wauquiez pour répondre.
Il est 7h04, psychodrame au Palais Bourbon.
Débat acharné, amendement, suppression pour finir par un boycott. Alors que les RIP et autres consultations citoyennes sont très à la mode, mode. C'est tout l'inverse, semble-t-il, à l'Assemblée nationale où le gouvernement voudrait bien limiter le temps de parole quand il s'agit de discuter d'un texte de loi avant examen. 10 minutes maximum et plus qu'un seul orateur par groupe. Le texte a été adopté discrètement dans la nuit de mardi à mercredi. Alors hier, les députés de l'opposition, de gauche comme de droite, se sont levés comme un seul homme pour boycotter le vote. François Rosy, drôle d'ambiance dans l'hémicycle.
Des bancs vides et une colère, celle des députés d'opposition évidemment, qui crient au scandale, au déni de démocratie face à la réforme de leur temps de parole à l'Assemblée. Le député Les Républicains Philippe Gosselin regrette qu'à l'avenir, les groupes devront se limiter à un orateur chacun lorsqu'ils défendent un amendement.
L'opposition, dans une démocratie, a des droits. Le droit de pouvoir s'exprimer individuellement et en groupe. Il n'est pas acceptable qu'un parlementaire qui est un élu de la nation ne puisse pas s'exprimer individuellement au titre de la nation.
Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre, lit dans ce boycott une manœuvre politicienne dans un contexte électoral compliqué pour de nombreuses formations au lendemain des européennes. Il défend le texte de cette réforme.
Les discussions de textes s'éternisent souvent pour des raisons inutiles. Quand vous avez 10 amendements, 15 amendements, 20 amendements identiques, est-ce qu'ils nécessitent 20 discussions ? Alors que les termes en sont parfaitement identiques, c'est de la perte de temps. Il y a de plus en plus d'amendements dont la seule finalité est de donner une minute de gloire aux orateurs.
Un texte qui, selon la majorité, permettrait de fluidifier les débats. Des débats qui reprendront sur cette réforme dès aujourd'hui à l'Assemblée.
Et visiblement, ça promet d'être encore une séance musclée. Musclée et pas qu'un peu, la prochaine facture EDF, 28 millions de foyers concernés. Après-demain samedi, les tarifs régulés de l'électricité augmentent de 6%. 120 euros de plus par an, ce n'est pas rien. Majoration contestée par les associations de consommateurs et l'autorité de la concurrence. Il est passé aux aveux, l'homme soupçonné d'avoir déposé le colis piégé qui a fait 13 blessés à Lyon la semaine dernière. Il affirme avoir agi seul et a expliqué aussi aux enquêteurs qu'il avait acheté tout le matériel en ligne sur Internet. Sa garde à vue racontée par Emmanuel Leclerc.
Les éléments d'enquête accumulés depuis vendredi dernier étaient tellement solides qu'il a fini par être obligé de reconnaître les faits, confie une source proche du dossier. Pendant plus de 48 heures de garde à vue, le suspect originaire d'Oran en Algérie aura d'abord tenté de garder le silence avant de raconter finalement comment il a confectionné sa bombe. Les enquêteurs avaient de toute façon toutes les dates de ses achats sur Amazon, les piles, l'acétone, les petites billes en acier et ça remonte à plusieurs semaines, ce qui prouverait à quel point cet étudiant en informatique a prémédité cet attentat. Même s'il n'aurait toujours pas expliqué ses motivations, la piste d'une vengeance pour ne pas avoir obtenu un visa pour intégrer une école d'ingénieurs en France n'est pas écartée. Face aux policiers, l'homme affirme en tout cas avoir agi seul pour préparer notamment dans sa chambre le TATP, cet explosif utilisé par les réseaux terroristes islamistes ces dernières années. Un point que les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire cherchent évidemment à vérifier à travers les gardes à vue en parallèle de plusieurs de ses proches, sa mère, son père et son frère cadet, des gardes à vue qui s'achèveront demain.
Ariane Chemin, journaliste au Monde à l'origine de l'affaire Benalla, convoquée hier par la DGSI. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur la manière dont j'avais vérifié mes infos, façon indirecte de m'interroger sur mes sources, a-t-elle expliqué à la sortie. Ariane Chemin et Benoît Colomba de France Inter seront tous les deux au micro de Léa Salamé tout à l'heure à 8h10.
Il est 7h08, Hélène. L'actualité à l'étranger dominée ce matin par la crise politique en Israël.
Moins de deux mois après les élections législatives, les députés du Parlement, de la Knesset, ont choisi la dissolution hier soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à créer de coalition autour de son parti, le Likoud, et a préféré prendre le risque d'un nouveau vote plutôt que de voir le président donner sa chance à un autre que lui. Le pari est risqué, Benjamin Netanyahou en sort fragilisé. Étienne Monin est à Jérusalem pour France Inter.
Eli Avidar.
Entouré par les députés du Likoud dont il a sécurisé le vote un peu avant, le visage fermé, les lèvres pincées, Benjamin Netanyahou écoute le résultat qui sonne comme sa défaite personnelle, même s'il ressemble à cet instant à un naufrage collectif. Les discussions de dernière minute n'ont pas changé la trajectoire. Avigdor Lieberman est resté sur ses positions, opposé à la prédominance, dit-il, du religieux dans la coalition.
Nous sommes les partenaires naturels de la droite. Nous ne serons pas les partenaires d'un gouvernement soumis à la loi juive.
Dans cette affaire, le Premier ministre a perdu son flair politique légendaire. La majorité lui a glissé des mains. Il s'estime trahi par son ancien ministre.
Tout simplement incroyable. Avigdor Lieberman fait maintenant partie de la gauche. On lui donne des voix de droite, mais lui ne donne pas sa voix pour un gouvernement de droite. Et ce qui se passe devant nous, c'est qu'il fait tomber un gouvernement de droite.
Le Premier ministre s'accroche maintenant aux élections qu'il a lui-même provoquées pour empêcher la nomination d'un autre élu qui aurait pu tenter de former une coalition sur d'autres bases. Jérusalem, Étienne Moulin, France Inter.
Et les Israéliens retourneront donc aux urnes le 17 septembre. Dossier Huawei en toile de fond, la Chine montre à nouveau les muscles ce matin. Les droits de douane punitifs et les sanctions décrétées par Donald Trump relèvent selon Pékin du terrorisme économique. Peut-on laisser les Français qui ont rejoint Daesh se faire juger en Irak? 7 d'entre eux ont déjà été condamnés à mort à Bagdad. Voilà ce qu'en dit Emmanuel Macron.
Nous avons été clairs depuis le début, comme d'ailleurs nos alliés au sein de la coalition, sur le fait que nous reconnaissons la souveraineté irakienne, sa justice, et que pour les djihadistes qui sont incarcérés, ils sont jugés sur place pour les crimes qu'ils ont commis sur place. Il ne m'appartient pas de qualifier aujourd'hui le fonctionnement de la justice irakienne. Par contre, comme nos alliés qui ont aboli la peine de mort, il est clair que pour nos ressortissants pour lesquels la peine de mort sera prononcée, nous demandons à ce qu'elle soit commuée en prison à perpétuité ou en autre peine qui correspond aussi à ce que, dans le cadre de nos accords bilatéraux, nous pouvons reconnaître.
Les procès de djihadistes français en Irak sont équitables, a encore affirmé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, hier, de quoi hérissait Belkis Wille de l'ONG Human Rights Watch.
Depuis 2 ans, nous avons documenté les poursuites engagées contre les suspects de l'État islamique. Et ce que nous avons vu, c'est que ces procès sont fondamentalement injustes. Nous constatons que ces suspects font constamment face à des violations de procédure. Pas de présomption d'innocence, pas d'accès à une défense convenable. Et dans de nombreux cas, la justice n'est rendue que sur la base de confessions. Alors que les suspects affirment souvent avoir été torturés dans le but de les faire avouer. Il s'avère que le cas de ces Français n'est vraiment pas différent. La France devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour autoriser ses ressortissants à rentrer et les juger en bonne et due forme selon la loi lors de procès qui permettraient la participation des victimes.
Réaction recueillie par Loïc Loury. Près du Parlement à Budapest, un bateau de plaisance sur le Danube a chaviré hier soir, visiblement suite à une collision. À son bord, des touristes sud-coréens. 7 sont morts noyés, 19 sont toujours portés disparus. En bref, encore cette nouvelle attaque de requin bulldog en Nouvelle-Calédonie, c'est un pêcheur qui a été tué.
Il est 7h12, 5-7 et un match fou.
Qu'est-ce qu'il aura su, Benoît Paire, hier sur les cours de Roland-Garros? Ça restera l'un des matchs les plus marquants certainement de cette saison. Deux Français en face à face, Pierre Hugerbert ne lâche rien. Au bout du bout, un 11-9 dans le 5e set. Fin du suspense, Benoît Paire en route pour le 3e tour de Roland-Garros. C'est un grand coup de chapeau pour le compatriote.
C'est un match particulier contre Pierre Hugues. C'est vraiment un super pote, je l'avais dit déjà avant le match. Et je me retrouve à jouer un des meilleurs tennis de ma vie. Dans la tête, là où j'ai su être fort, c'est que je suis resté concentré. On a passé un très bon moment sur le court, on s'est régalé, on a pris beaucoup de plaisir. Et moi, je suis content de m'en sortir, bien sûr, mais c'est vrai que le plus important, c'était juste de profiter de ces émotions-là, parce que c'est pour ça qu'on joue au tennis. C'est pour ça que ce soir, je suis très fier et très content, mais c'est parce qu'on était deux, et c'est parce que Pierre Hugues a fait un super match aussi, donc je suis content d'avoir partagé ça avec lui.
Benoît Paire, Fabrice Abgral, on suivra aujourd'hui notamment Gaël Monfils face à Adrian Manarino. Et puis Arsenal pulvérisé hier soir 4-1 pour Chelsea qui remporte la Ligue Europa. Une victoire qui envoie Lyon qualifié directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Enfin, c'est le plus petit bébé au monde, une petite fille de 245 grammes à la naissance. Elle a 5 mois, elle pèse aujourd'hui 2,3 kg. Elle va très bien, on vous raconte tout ça dans le journal de 8h.
Merci Hélène Roussel.